7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Le continent africain est-il le nouvel Eldorado de l'emploi? Expatriés ou repates qui reviennent dans leur pays d'origine pour y travailler, tous semblent attirés par les perspectives d'emploi dans des grandes entreprises ou des PME locales sur le continent. Alors quel domaine professionnel faut-il cibler? Quelles perspectives d'avenir alors que le chômage des jeunes est aussi très important sur le continent? Quelle compétition entre les locaux, les expats et les repates et comment s'en sortir? Une émission en partenariat avec Le Point Afrique, dont nous recevons le responsable éditorial, Malik Diawara. Bonjour.
Bonjour.
Le Point Afrique a sorti un numéro spécial « S'installer en Afrique, travailler, entreprendre, investir, étudier » en accent notamment sur les promesses du continent en termes d'emploi. En face de vous, le coach bien connu de nos voisins et voisines, Didier Akouété. Bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente plus, mais on va le faire un petit peu quand même. Vous êtes le président du cabinet de recrutement et de ressources humaines Afrique Search et depuis plus de 20 ans, vous sillonnez le continent et notamment ses entreprises. Nous serons en ligne avec Chams Diane, PDG de Talent to Africa, un réseau social de recrutement. Et nous joindrons également Kuntel Khan, née en France, qui est allée s'installer au Mali, dont elle est originaire, pour trouver du travail. Alors et vous, les voisins, les voisines, on attend vos questions, mais aussi et surtout vos expériences professionnelles. Si vous travaillez dans une entreprise sur le continent africain, racontez-nous comment vous avez décroché ce poste que vous occupez, s'il vous plaît, et pourquoi. Et puis si vous êtes étudiant, racontez-nous aussi la carrière dont vous rêvez au 33 1 84 22 71 71. On vous attend aussi sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Alors c'est un paradoxe, on parle du chômage massif des jeunes sur le continent africain et en même temps d'opportunités en termes d'emploi. Malik Diawara, qu'en est-il?
Ben, ce qu'il y a, c'est que certainement le fait que l'Afrique soit la nouvelle frontière, une nouvelle frontière en tout cas actuellement de l'économie internationale, signifie tout simplement qu'il y a un besoin, je dirais, de développement, de croissance de l'économie. C'est là qu'il y a des opportunités d'affaires, etc., etc. Parce que quand on parle de l'Afrique, on pense souvent à des éléments de risque. Mais les risques dans le domaine du business, c'est ce qui permet, c'est ce qu'il faut bien mesurer pour pouvoir comprendre comment on va pouvoir beaucoup gagner de l'argent derrière.
Alors, Et il dépend bien sûr de chaque pays.
Exactement. Alors, ça varie selon les pays. Alors, pour revenir à votre question de manière tout à fait précise, cet élément, je dirais, de chômage extrêmement important d'un côté, et en même temps l'idée que l'Afrique est une sorte d'Eldorado, en tout cas il y a beaucoup d'opportunités, se pose tout simplement la question de l'adéquation de la formation des personnes par rapport au marché du travail, par rapport aux besoins qui sont les besoins du continent africain aujourd'hui.
Avec un manque de main-d'œuvre qualifiée.
Un manque de main-d'œuvre qualifiée, un manque de tout, dans tous les domaines. On a beaucoup de personnes qui sortent des universités, etc. Mais petit à petit, il y a aussi d'autres personnes qui sortent de grandes écoles qui sont liées à des structures ici. Mais je pense que c'est pas encore suffisant parce que l'adéquation par rapport à la réalité du marché du travail n'est pas si forte que ça. Donc, côté, il y a ceux qui font des études universitaires un peu générales. Et puis maintenant, les choses vont un peu mieux, tout simplement, parce que les écoles de commerce commencent à se développer ou se développent et forment de plus en plus de managers. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de concurrence et en même temps, il y a beaucoup de carences.
Alors que donc, 70% de la population du continent africain a moins de 25 ans, à quelle tendance positive on assiste sur le sujet de l'emploi, Didier Akouété?
Je compléterai ce que disait Malik en rappelant qu'effectivement, le continent ne crée pas assez d'emplois. On estime qu'on crée entre 3 et 4 millions d'emplois chaque année pour 13 à 15 millions de jeunes qui arrivent sur le marché.
C'est ça.
Dans le même temps, on a fait des croissances de 7 à 10% ces 10 dernières années dans plusieurs pays, mais avec une croissance du marché de l'emploi qui est restée relativement faible pour les différentes raisons que Malik Diawara a évoquées. Cependant, les bonnes nouvelles, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux secteurs qui émergent. On prend le secteur des technologies de l'information, le secteur de la financiarisation par justement l'industrie digitale, des jeunes qui vont dans l'agro-business, dans l'agro-industrie, les énergies. Donc, il y a beaucoup de nouveaux secteurs qui sont en train d'émerger sur le continent.
Il y a une vraie mutation économique sur le continent.
Effectivement, une transformation de la structure de l'économie. Et donc, c'est plutôt ça la bonne nouvelle. Et pour conforter cette bonne nouvelle, c'est qu'on se rend bien compte que la plupart des pays sont en train de sortir d'une économie extrêmement rurale, avec l'agriculture qui absorbait à peu près 50% de la main-d'œuvre, vers une économie d'industrie et donc de services qui vont essayer d'attirer un petit peu plus de compétences. Parce que le paradoxe, c'est que plus on est diplômé en Afrique, plus on a des chances d'être au chômage. C'est paradoxal.
Oui, parce qu'en fait, ça dépend de la formation qu'on a suivie.
Exactement.
Et qui peut parfois être pas assez qualifiante et professionnelle. Alors, on va donner la parole à une voisine tout de suite, Aïssatou, à Dakar. Bonjour, Aïssatou.
Bonjour, Cédric.
On vous écoute, Aïssatou.
Bon, voilà, moi, j'ai un cursus universitaire. J'ai fait une licence pro en finance. Et après, j'ai fait un master en audit et contrôle de gestion. Donc, j'ai commencé à travailler dès que j'ai eu ma licence pro. Et je travaille dans un cabinet d'experts comptables et un ami de mon oncle qui nous a mis en relation.
Et ça vous plaît, voilà, ce travail-là?
Oui, ça me plaît. Au début, c'était pas trop mon truc parce que l'audit, c'était un peu compliqué pour moi. Il faut gérer les clients, les dossiers, les deadlines. Et voilà. En plus, j'imaginais un parcours plutôt financier qu'auditeur, quoi.
Et maintenant, ça vous plaît un peu plus. Vous y êtes faite.
Oui. Après 8 ans d'expérience, quand même. Après 8 ans d'expérience, on a la main, quoi.
Merci Aïssatou pour ce témoignage. Malik Diawara, vous voulez réagir?
Mais je pense que elle est à l'image de beaucoup de jeunes qui sortent des universités, en tout cas des écoles africaines. Mais là, ce que je constate, c'est qu'apparemment, elle a une licence pro. Donc ça, c'est quelque chose de déjà assez particulier, si j'ose dire. Parce que ça veut dire qu'elle était destinée à un métier particulier, un secteur particulier, ce qui a peut-être facilité certainement son intégration dans le marché.
Dans une entreprise, Lydia, à côté.
En fait, ce qu'elle disait, c'est qu'elle est rentrée dans l'audit. Ce n'était pas forcément ce qu'elle dit, son boulot de rêve. Finalement, elle aime bien. Je ne suis pas sûr qu'elle adore parce qu'à sa voix, elle n'a pas la très enthousiaste. Exactement. Mais ce qu'on peut dire, c'est surtout que, si vous voulez, 80% des nouveaux métiers qui vont émerger dans les 15 prochaines années, personne ne les connaît, selon les études. Et 30% des compétences dont le marché aura besoin dans les 10 prochaines années, personne ne les connaît. Donc, nous rentrons en fait dans une sorte de cycle d'instabilité et en fait de manque de lisibilité du marché qui doit obliger des jeunes comme Aïssatou à s'assurer qu'elle peut s'adapter à des métiers qui apparaîtront demain mais qu'elle ne connaît pas aujourd'hui. Donc, elle peut tout à fait, avec cette base d'expérience en audit, évoluer vers un métier qui n'a pas grand-chose avec l'audit demain. Et donc, est-ce que les jeunes sont prêts à cette adaptabilité à ce marché qui est relativement inconnu aujourd'hui?
Et alors, on parle justement de cette inadéquation entre études et monde du travail. On va donner la parole à un voisin qui est concerné par cette question, Blaise, à Kinshasa. Bonjour Blaise.
Bonjour madame.
On vous écoute Blaise.
Je ne voudrais pas rentrer dans les spéculations sur cette question, mais j'aimerais personnellement donner une expérience qui me concerne. C'est-à-dire, je termine ma licence en 2014 en philosophie. La licence que je faisais en parallèle avec la formation en informatique. Et au bout de l'année 2016, j'ai terminé ma formation en informatique. Et je vous assure que depuis que j'ai terminé, en 2016 jusqu'à présent, j'ai une moyenne de candidatures par mois de 8. Je l'ai calculé aujourd'hui.
Mais vous faites 8 candidatures par mois. Vous répondez à 8 offres.
Par mois, mais je n'ai jamais été appelé pour une probable interview. Moi, je ne crois pas que c'est mon niveau qui est bas, mais c'est un problème de carence de marché d'emploi. Parce que les marchés d'emploi sont déjà occupés par une certaine catégorie de personnes. Comme je l'avais dit, qu'il y avait une sorte de concurrence un peu déloyale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui engagent les gens qui se trouvent dans leur cercle et ça complique vraiment la situation des autres. Donc nous sommes vraiment pénalisés, handicapés, sur tout le plan, on ne sait pas se développer comme il faut.
Vous voulez dire qu'il y a un système un petit peu de piston dans les entreprises?
Voilà, des pistons, voilà.
Merci Blaise pour ce témoignage. Didier à côté, je vous laisse.
Vous savez, effectivement, Blaise a raison. Sur un marché où il n'y a pas assez d'emplois, forcément, ceux qui ont accès aux décideurs ont les jobs. C'est partout, hein. C'est pas qu'en Afrique. Peut-être un peu plus prégnant en Afrique parce que la masse de jeunes qui arrivent sur le marché par rapport au faible taux de création d'emplois fait qu'effectivement, la proximité, on va appeler ça la proximité, la famille, le cousinage, fonctionne un peu plus sur certaines fonctions. Sur des métiers plus sophistiqués, des fonctions plus sophistiquées, les entreprises ne jouent pas à ça, parce qu'une entreprise recrute pour gagner de l'argent, donc elle n'a aucun intérêt à recruter le fils du voisin pour faire plaisir au voisin, un stage éventuellement. Donc aujourd'hui, c'est aussi une nouveauté. La sophistication de certains secteurs des économies africaines oblige les entreprises à choisir réellement les talents les plus adaptés à ces postes, parce que ces entreprises sont non seulement en compétition avec des entreprises internationales, quand ce sont des entreprises locales, et les entreprises internationales sont en compétition avec des entreprises locales. Prenons le secteur des télécoms ou de la banque, sont nommées ces entreprises. C'est des secteurs extrêmement concurrentiels aujourd'hui entre des acteurs locaux, donc africains, et des majors au niveau international. Donc on ne peut plus se permettre de recruter le fils du copain ou le fils du voisin parce qu'il est sympathique.
Oui, c'est plus concurrentiel. Alors Blaise le disait, il a deux diplômes, l'un en philosophie et l'autre en informatique. Je vous propose d'écouter Des Chagrins et B. Il a fondé une PME congolaise dans l'informatique, justement, de Network à Pointe-Noire. Une PME qui emploie une trentaine de personnes et qui a encore aujourd'hui du mal à recruter.
Alors on a besoin de personnes formées, d'ingénieurs. Vous trouvez des gens qui sont ingénieurs informaticiens sur le terrain, ils ne valent vraiment rien.
Et concrètement, comment ça s'explique ?
Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés pour chômer. Parce qu'ils ne sont pas bien formés, parce que nous, au Congo, vous avez des gens qui ont terminé leur cursus ici, dans de nombreuses écoles privées. Il en pleut chaque jour ici, comme les églises. Parce qu'aujourd'hui, les écoles, c'est quoi ? Chacun va avoir une petite maison comme ça, trois chambres, salon, voilà, c'est une école. Institut parfois même. C'est incroyable, hein ? On manque de la main-d'œuvre qualifiée dans tous les niveaux. Ça me fatigue parce que je travaille trop. Je n'arrive pas à déléguer. Aujourd'hui, il pleut des BTS. Hein. On a beaucoup de BTS en maintenance informatique bidon. Et ça, ça fait mal. Depuis l'année passée, on est sur un budget de 15 millions, près de 23 000 euros, d'investissement en formation, en interne, sur fonds propres, sur 2 ans, pour une formation de 12 techniciens. 15 millions de CFA, c'est beaucoup d'argent pour une entreprise comme la nôtre. Cet argent, on aurait pu investir dans autre chose. On se rend compte qu'à défaut de chercher la perle rare, on va former la perle rare. Vous êtes obligé de le faire, mais avec aucune garantie que cette perle rare reste. Et du jour au lendemain, un grand groupe comme Total, il vient, c'est sans votre permission. Et je ne forme pas pour les autres.
Alors, ce dirigeant de PME congolaise soulève de vraies difficultés, Didier Akwete.
Absolument. C'est la réalité, beaucoup de PME. Vous savez, deux chiffres. Il y a 2012-2013, une étude de l'Organisation internationale du travail, des économistes, indiquait qu'environ 1 500 000 jeunes égyptiens étaient cherchaient un emploi et 8 000 postes étaient à pourvoir. En Afrique du Sud, 3 millions de jeunes étaient en train de chercher un emploi et il y avait à peu près 900 000 postes qui étaient à pourvoir. Donc, effectivement, il y a une forte inadéquation pour les jeunes Malik entre les formations qui sont proposées, qui sont vraiment parfois des écoles de cuisine. Et le monsieur le disait, c'est-à-dire on ouvre une cuisine, on met école supérieure de commerce et on ne forme rien que juste un diplôme.
Parce qu'elle manque de matériel, elle manque de professeurs qualifiés.
Et c'est plus facile en plus dans le secteur des business schools. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez pas assez d'écoles techniques. Vous avez des écoles d'informatique sans ordinateur. Et vous avez des écoles où on forme au métier du BTP, au métier de l'énergie, sans que les jeunes aient jamais eu à toucher une seule table de mesure électrique, etc. Donc, effectivement, il y a un vrai problème au niveau des formations qui sont proposées, parce que les jeunes, il faut le rappeler, les statistiques, c'est qu'environ 80% des jeunes sortent du système éducatif sans qualification, avec un diplôme, mais sans qualification. Donc effectivement, une PME
creux
comme celle de notre ami ne peut pas obtenir grand-chose.
Malik Diawara.
On se doute bien que dans un tel environnement, la formation est un business. Donc il y a des gens qui s'y jettent tout simplement pour gagner de l'argent. La deuxième chose, c'est que les mots, comment expliquer ça ? Par exemple, un mot comme le mot informatique, une école supérieure de l'informatique, Qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, ça ne veut rien dire tout simplement parce que si le contenu n'est pas un contenu adapté aux besoins des entreprises, et si en plus de ça, au niveau de la connaissance et du contenu de la technologie, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de moderne, si j'ose dire. En tout cas, les dernières données, les dernières informations, tout ce qu'il faut savoir, les derniers états de savoir qu'il faut dans le domaine, il est évident que quand on est formé dans une école informatique, sur un tableau complètement inadapté et sur des technologies dépassées, sur du matériel dépassé. En plus, si l'entreprise est complètement déconnectée si l'école est complètement déconnectée par rapport au monde de l'entreprise, évidemment, ça ne peut pas marcher. C'est normal.
Alors, on va donner la parole à un autre voisin, Singar, à Dakar, qui travaille pour une multinationale allemande. Bonjour, Singar.
Oui, bonjour les voisins, comment vous allez?
Très bien. Alors on vous écoute, Singar, sur votre expérience à vous.
Voilà, merci beaucoup. Donc là, comme vous l'avez dit, je travaille actuellement pour une multinationale allemande qui évolue dans le domaine de la laiterie. Donc je gère l'Afrique de l'Ouest en tant que responsable commercial régional. L'emploi que j'ai pu obtenir à partir d'un cabinet de recrutement basé à Dubaï, Mind Mindfield, comme ça, parce que pour développer l'Afrique et le Moyen-Orient, donc ils avaient ouvert une direction commerciale à Dubaï, cherchaient un représentant sur l'Afrique de l'Ouest, et c'est là-bas qu'ils ont vu mon profil sur le réseau social LinkedIn. Ils m'ont contacté pour des entretiens et tout, ça s'est bien passé. Donc là, j'entame ma troisième année avec eux. En qualité de responsable commercial en Afrique de l'Ouest.
Donc vous n'avez jamais eu de mal à trouver du travail alors?
Bon, pas tout à fait, parce que au début j'ai commencé ici à Dakar, j'ai une formation 100% sénégalaise, donc tous mes diplômes sont estampillés sénégalais, je n'ai jamais étudié à l'extérieur. Juste après ma maîtrise en anglais, c'était en 98, l'année suivante, en 99, j'ai décroché mon premier job de commercial, sans pour autant avoir au début la formation de commercial. Mais vu les résultats que j'ai pu avoir là-dessus et l'amour que j'ai commencé à porter à ce métier, et par la suite je me suis converti un peu, je suis allé m'inscrire à une école de commerce pour en sortir avec un master en marketing gestion commerciale. Donc, j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années ici à Dakar et dans la sous-région en distribuant des produits de grande consommation de marques françaises ou italiennes et autres. Et j'ai fait aussi d'autres entreprises de la place. J'ai eu la chance quand même d'avoir été toujours choisi par un cabinet de recrutement. Donc, de la place pour vous proposer de nouvelles offres. J'ai commencé par agent commercial, j'ai évolué à chef de vente, après responsable commercial, jusqu'à là où je suis actuellement.
Une jolie carrière. Merci Singar pour votre témoignage, Didier Akouété. Une success story que celle
effectivement,
de Singar.
Effectivement, il y a des jeunes Africains ou des moins jeunes qui font de très brillants parcours sur le continent.
En ayant étudié sur le continent.
Absolument. Et d'ailleurs, sont nommés cette fameuse école de Dakar, l'ISM, qui est devenue une référence au fil du temps, qui produit vraiment des jeunes qui n'ont rien envie à d'autres jeunes qui sont produits dans les écoles en Europe, aux États-Unis, démontrent qu'effectivement, on peut avoir des formations de qualité et des entreprises de qualité qui permettent à ces talents de progresser. Et donc on voit de plus en plus de beaux parcours, sauf que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire nous sommes dans un univers aujourd'hui assez éclaté avec une très mauvaise qualité de la plupart des centres de formation, et puis quelques-unes qui brillent avec des pépites, mais qui malheureusement
qui
empêchent exactement les autres, les gouvernements aussi de jouer leur rôle. C'est-à-dire de s'assurer que les écoles qui ouvrent sont monitorées, sont supervisées, sont fermes quand elles ne peuvent pas délivrer des diplômes à la hauteur des besoins du marché de l'éducation.
Alors ce qui est intéressant, et on l'entend aussi dans le témoignage de Singar, c'est que de nombreuses multinationales, pour limiter les coûts, vont maintenant recruter des cadres locaux plutôt que des expatriés.
C'est tout à fait logique, pour la bonne et simple raison que dans l'environnement mondialisé dans lequel on vit, la question numéro un qu'il faut régler, c'est la compétitivité. Avoir la meilleure qualité, je dirais, d'employé pour un rendu qui soit meilleur. Et il y a un autre avantage, c'est l'élément culturel. Parce que quand on recrute sur place quelqu'un qui a les compétences techniques et qui, parallèlement à ça, comprend tout à fait l'environnement culturel dans lequel il vit, il va évoluer. parce qu'une entreprise en Afrique ne fonctionne pas exactement comme une entreprise en Europe, tout simplement parce que les populations sont différentes, il y a d'autres facteurs socio-culturels qui entrent en ligne de compte, dans le conscient ou dans l'inconscient des Africains, et donc ça, il faut en tenir compte. Et je pense que pour mieux en tenir compte aujourd'hui, c'est plutôt bien indiqué de recruter des personnes qui comprennent cet environnement-là. Et c'est certainement
notamment les langues aussi locales.
Mais les langues, le cas de Singar a été un cas vraiment intéressant, il parle anglais, mais ce qu'on ne sait pas toujours, qu'on n'intègre pas quand on regarde les Africains, c'est que chaque Africain parle globalement au moins deux langues. Sa langue maternelle, et puis la langue, soit le français, soit l'anglais, etc. Et puisque même à l'école, on a encore une autre deuxième langue, moi j'ai fait par exemple espagnol, donc ça fait qu'on a déjà trois langues. Alors si maintenant on est vraiment un actif et qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin, ben on n'a pas encore beaucoup d'autres langues, etc. Et c'est ce qui fait que cette diversité de profil fait que naturellement on est encore beaucoup plus compétitif, en tout cas on est beaucoup plus efficace.
Alors sur le continent africain, bien sûr, quand on parle d'emploi, il est difficile d'évincer la question du secteur informel. Selon l'Organisation internationale du travail, 76% des emplois sur le continent sont informels, donc c'est-à-dire qu'ils ne se soumettent à aucune législation nationale, ne font l'objet d'aucune imposition sur le revenu ni d'aucune protection sociale. Quels enjeux cela pose, cette économie informelle, Didier Akouété ?
Alors par-delà l'enjeu fiscal, il y a un enjeu de protection sociale des employés et puis de formation. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que la plupart des personnes qui sont formées en Afrique le sont sur le tas dans le secteur informel et souvent sans réelle qualification. C'est-à-dire le mécanicien ou le menuisier ou l'électricien qui est formé sur le tas dans l'informel sans critères professionnels précis et sans technicité. Vous voyez le dégât qu'il cause quand il va réparer un circuit électrique. Vous voyez le maçon quand il vient et que le mur n'est pas droit. Le menuisier qui fait un meuble avec des bois qui penchent. Donc, en réalité, la question de la professionnalisation des métiers dans le secteur informel est essentielle pour aborder la question d'un réel emploi et de développement de ces métiers. Donc ça, c'est un vrai souci. Et le premier, donc, c'était ce que je disais, la question de la protection sociale. Vous n'avez pas de protection, vous n'avez pas de carrière. Donc c'est difficile de se projeter dans l'avenir quand vous travaillez que dans l'informel, surtout un jeune qui parfois est diplômé. Parce que beaucoup de jeunes diplômés vont dans l'informel. Je ne parle même pas du drame de ceux qui font les mototaxis dans des pays comme le Bénin, le Togo, où vous avez des jeunes qui ont des doctorats, qui ont des maîtrises, qui se retrouvent à conduire des mototaxis. Il n'y a pas de préjugé là-dessus. Mais enfin, quelqu'un qui a un bac plus 4 plus 5, je suppose qu'il aspire à autre chose que conduire une mototaxi toute la journée. Donc ça, c'est une déperdition extraordinaire d'expertise, de compétences qu'on a formées, mais dont on n'arrive pas à profiter par rapport à des secteurs de l'économie qui ont besoin de ces ressources, qu'il faudrait juste reformer un petit peu. C'est ce qu'on appelle l'école de la seconde chance. Redonner une petite formation courte pour que ces personnes puissent se réinsérer dans des secteurs aujourd'hui qui ont le vent en poupe sur le continent.
Et est-ce que ce secteur informel est en concurrence avec des PME formel?
Ah bah de toute évidence, bon, c'est un des articles du magazine du Point Afrique. Non, évidemment, c'est pas les mêmes règles et ça.
C'est ça. Sur certains domaines, effectivement, il y a une concurrence qui est vraiment déloyale. D'autant que c'est une concurrence déloyale qui est finalement tolérée. Puisque quand on sait que la majeure partie des personnes qui travaillent en Afrique travaillent dans le secteur informel, que nous avons des États, que nous avons des ministères du travail, etc., etc., ça veut dire qu'on a vraiment un gros problème. Et je pense que là, l'importance du secteur informel donne à réfléchir sur deux choses. La première chose, c'est que comment le réduire, mais comment le réduire en accompagnant les populations, en accompagnant les gens, parce que attention, le secteur informel, c'est la soupape politique dans nos pays. Si vous empêchez les gens de travailler, parce que les États créent des écoles, forment des gens, ne leur donnent pas du travail, parce qu'on a été pendant très longtemps dans une économie qui a été complètement inadaptée, une économie de rente, d'exportation, etc., etc. Donc de non-création de richesses, il n'y a pas de développement industriel, etc., etc. Et le résultat, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans le secteur informel, qui se prennent en charge, qui font tout pour s'en sortir et à qui on n'a pas le droit, quelque part, de dire « mais vous n'allez pas travailler ». C'est une vraie question.
Mmh. 7 milliards de voisins, comment décrocher un emploi en Afrique, que l'on vienne de la diaspora ou que l'on vive sur place? Quelles promesses, quelles déceptions? Vos questions, vos commentaires au 33 1 84 22 71 71. On vous attend. Les voisins, les voisines, on se retrouve dans un instant après Mojodi de Delgrès. Milliards de voisins, le continent africain est-il le nouvel Eldorado de l'emploi? Quelles filières sont les plus porteuses? Comment faire pour tirer son épingle du jeu? Où fait-il bon travailler sur le continent africain? Une émission en partenariat avec Le Point Afrique aujourd'hui, dont nous recevons le responsable éditorial Malik Diawara pour la sortie d'un numéro spécial sur le thème s'installer en Afrique. Et nous sommes en compagnie du coach Didier Akwete, connu de nos voisins, président du cabinet Afrique Search. Alors j'imagine que tous les deux vous connaissez Jumia, le leader de l'e-commerce africain. Je vous propose de redécouvrir cette entreprise dans un reportage sur la chaîne de télévision ivoirienne RTI.
8h du matin. Ce jeune homme qui file à toute allure sur sa moto, c'est Arsène. Il est livreur pour Jumia, le numéro 1 du e-commerce en Afrique. Sur le trottoir, son client impatient d'être livré.
Pourquoi vous achetez sur Internet? Quel est l'avantage d'acheter sur Internet hein?
C'est pratique, ça m'évite d'aller faire les magasins. Donc je suis au bureau, je peux commander et puis bon, là je suis livré.
Ouais.
Voilà, je gagne du temps et puis je suis opérationnel. Alors si je veux faire les magasins, je suis obligé de m'absenter ou bien d'attendre un jour où je ne travaille pas.
C'est quoi que vous avez commandé?
C'est un téléphone portable.
5 pouces, 8 pixels, 16 gigas.
C'est ça.
La couleur or, c'est ça.
C'est ça.
C'est ce que vous avez demandé.
Oui.
Que vous inspire la réussite d'une telle entreprise?
C'est une belle réussite en Afrique. Vous savez, comme un peu M-Pesa au Kenya, le modèle
de paiement. Lancé en 2007.
Oui, et en fait, c'est révélateur de ce qu'on appelle les leapfrogging. C'est-à-dire comment on fait des sauts d'une étape où le commerce traditionnel africain commence à se structurer avec tous les malls qu'on voit, à de la vente à distance, la livraison à distance. C'est-à-dire c'est vraiment un saut réellement en termes de modèle disruptif. Ou comme M-Pesa dont on va parler tout à l'heure, comment avec un taux de bancarisation de 15 à 20% à peine dans les pays en Afrique, on arrive avec le paiement mobile à aller sur du 90-95%. Donc ça, c'est vraiment aussi cette réalité de l'Afrique qu'on ne perçoit pas assez, mais qui est une réalité dans plusieurs secteurs.
Jumia, donc lancé il y a 6 ans au Nigeria, développé aujourd'hui dans une trentaine de pays du continent africain, et donc M-Pesa, exemple kényan, une appli qui permet de payer par SMS et qui est aujourd'hui l'application de transfert par téléphone la plus populaire au monde, et donc a été lancée il y a près de 11 ans. Et alors je voudrais donner les chiffres que vous donnez dans le Point Afrique, Malik Diawara. M-Pesa exécute chaque jour au Kenya plus de microtransactions que le géant du transfert de fonds Western Union. Donc c'est énorme.
Mais ça fait partie des réalités qu'on ignore souvent sur l'Afrique. L'Afrique est une terre d'innovation. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut voir, quand on regarde les populations dans diverses situations, on voit bien qu'il y a une créativité assez incroyable qui fait que les acteurs africains arrivent à s'en sortir. Et puis la deuxième chose, c'est que justement, on n'a pas toujours beaucoup de chiffres précis et très clairs quand ça concerne l'économie africaine. Mais, par exemple, le secteur informel financier est un secteur informel extrêmement important. Il fut un temps, en tout cas, je ne sais pas si ça a vraiment changé, mais en tout cas, le secteur informel financier au Cameroun, par exemple, était plus important que le secteur formel financier. Donc, ça veut dire qu'il y a une Afrique que finalement, on ignore, ou en tout cas, qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on ne perçoit pas de manière tout à fait claire, qui existe, qui est là, et qui innove, qui arrive à trouver des solutions assez problèmes. Et là, dans le cas de M-Pesa, ce sont les populations qui ont tout à fait trouvé la solution et qui ont, je dirais, inspiré l'opérateur de télécommunications pour que cet opérateur se lance dans cette entreprise.
Alors nous sommes en ligne tout de suite avec Shams Diane, que je pense vous connaissez aussi.
Absolument.
PDG de Talent to Africa, réseau social de recrutement. Bonjour Shams Diane.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce réseau social que vous avez fondé en 2016, il y a près de 2 ans?
Alors, Talent to Africa, en fait, est une plateforme qui, à la base, a été créée spécifiquement pour permettre aux talents de la diaspora de se recommander les uns les autres, de manière à pouvoir, en fonction des opportunités qui sont publiées, pouvoir recommander des candidats qui correspondent à ce que recherchent les entreprises en Afrique. Et c'est vrai que ça a été le concept de départ. Et par la suite, on s'est rendu compte que, et les membres d'ailleurs nous le disaient, du réseau, nous disaient que finalement, c'est bien, ils sont ravis de pouvoir se recommander les uns les autres. Mais ce qui les intéresse aussi, et en particulier, c'est de pouvoir postuler eux-mêmes lorsque les offres leur correspondent. Et donc, on a fait évoluer quelque part la plateforme dans ce sens, qui aujourd'hui permet à la fois de recommander quand on pense que des profils dans notre réseau peuvent être pertinents, mais également de postuler directement. Et on sent un véritable engouement, notamment par rapport à cette deuxième catégorie, parce qu'il y a une véritable envie d'Afrique. Les talents de la diaspora cherchent à rentrer et sont très, très à l'écoute, sont même en écoute très active, voilà, par rapport aux opportunités sur le continent.
Combien d'utilisateurs vous avez aujourd'hui sur ce réseau social?
Ça se compte en milliers. Aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas forcément communiquer sur un volume. On est dans des process, etc., en cours. Mais on communiquera à un moment donné.
Plusieurs milliers, en tout cas.
Voilà, plusieurs milliers, absolument.
Et pourquoi vous ciblez d'abord et surtout la diaspora?
Alors, la diaspora, en fait, je pense que vous en avez déjà pas mal discuté dans le cadre de l'émission, mais ça fait complètement sens par rapport à la réalité du contexte économique africain. Aujourd'hui, on se rend compte que la majorité des grands groupes, les multinationales présentes en Afrique, ont tendance à africaniser le management. D'accord ? Et cette africanisation laisse la place, finalement, à des talents africains, qu'ils soient dans la diaspora, qu'ils soient aussi expérimentés localement, parce qu'il y a beaucoup de mobilité panafricaine, hein, c'est un vrai sujet, on s'en rend compte aussi au niveau de la plateforme. Donc très clairement, les expatriés sont un peu en voie de disparition, pour un certain nombre de raisons.
Ils sont remplacés par les repats, comme on les appelle, hein, ceux qui reviennent au pays.
Les repats qui viennent prendre des postes de management en Afrique.
Donc pour vous, il y a un vrai potentiel à cibler cette population immense.
Absolument, et puis ça correspond à une demande, à un besoin. Moi-même, à la base, je suis un ancien de la diaspora, donc j'avais envie à un moment donné de revenir en Afrique. Et on est compte que dans mon entourage, on pensait tous pareil. Sauf qu'il n'y avait pas assez de visibilité sur les opportunités, pas de visibilité sur les offres, les informations sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est quelque part une contribution qu'on essaie d'apporter. On n'est pas les seuls, hein, c'est quand même un vaste sujet. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ça devienne aussi visible que chercher un job à Paris ou en région, ou voilà, n'importe où dans le monde. L'objectif à terme, c'est ça.
Merci à vous, Shams Diane. Je rappelle que vous avez fondé le réseau social de recrutement Talent to Africa, Didier Akwete. On parle de ces repats, justement, qui reviennent en nombre.
Oui, bah, en fait, c'est un petit peu ce qui a motivé la création d'AfriSearch en 96. À l'époque, on parlait d'africanisation déjà, et la diaspora a commencé à regarder très activement vers le continent. Et plus il y aura, je pense, des réseaux sociaux, des cabinets de recrutement spécialisés, plus le marché, à mon avis, se structurera et on aura une meilleure visibilité sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de visibilité sur le marché de l'emploi en Afrique. Beaucoup d'entreprises ne publient pas d'offres, donc on ne sait pas en réalité le volume d'offres proposées. Et donc forcément, les compétences ne peuvent pas postuler et donc proposer leurs compétences. La question de la diaspora, c'est vrai que l'intérêt, c'est qu'il y avait des secteurs dans lesquels il y avait très peu de formation sur le continent. Et puis des domaines dans lesquels l'intensité concurrentielle était très faible, donc ne permettait pas à des personnes formées localement d'exercer réellement ses talents. D'où l'intérêt de faire appel à la diaspora, exactement, qui a eu à affronter certaines situations de marché, a eu à céder à certaines innovations, et puis dans certains domaines, le domaine technique. La pauvreté des filières techniques en Afrique est juste dramatique. Or, on voit bien que le marché va évoluer vers les profils techniques, les métiers techniques dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, pour l'instant, c'est que la diaspora qui peut répondre massivement à ses besoins le temps que le niveau éducatif de certains établissements et puis l'ouverture de beaucoup d'écoles spécialisées techniques, infrastructures, énergie, eau, etc. puissent combler ce gap. Et les investissements vont être massifs. C'est-à-dire c'est plus de 100 milliards de dollars chaque année dans les infrastructures qui vont être investis. Et pour ça, il vous faut des compétences. Or, on ne les a pas aujourd'hui suffisamment sur le continent.
Alors, on a du monde au standard. On va donner la parole tout de suite à un voisin, Bertrand, à Abidjan. Bonjour Bertrand.
Bonjour RFI.
On vous écoute, Bertrand.
Moi, mon histoire, elle est toute simple. Moi, j'ai étudié l'anglais à l'université. J'ai fait une maîtrise d'anglais. Et on ne devait pas seulement avoir une langue comme arme pour pouvoir entrer facilement dans le monde du travail, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il fallait que j'ajoute une question professionnelle. Mais dans cette recherche-là, malgré que je n'avais pas encore commencé la formation en marketing que je voulais faire, j'ai pu être pris comme commercial dans une entreprise et j'ai commencé à faire mes premiers pas dans le secteur d'activité, dans la vente et la distribution. Alors, à partir de là, j'ai bien aimé parce que j'ai rentré en contact avec les clients et tout ça. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je continue ma formation. Donc, je suis reparti à l'université, non sans en abandonnant mon travail, non les cours du soir, la formation, le renforcement des capacités. Mais je continuais de faire un cours du soir jusqu'à ce que je fasse un master, un bac plus 5. Et donc, j'ai pu évoluer de commercial à chef produit. Et de chef produit, avec l'expérience, j'ai été chef des ventes. Et là, j'ai eu la chance d'être pris dans une multinationale. Et donc, de chef des ventes dans la première multinationale, j'ai été recruté ou pris dans une autre multinationale où j'ai encore été chef des ventes et puis après, responsable commercial. Et j'ai fini par directeur commercial. Mais il faut dire que j'ai tout ce temps-là acquis de l'expérience et je m'adonnais à la formation de ce qu'on appelait la force de vente extérieure. parce que les multinationales, de moins en moins, gardaient des forces de vente à l'intérieur, mais se rabattaient sur des entreprises qui avaient des forces de vente extérieures. Mais il fallait donc que je les forme aux standards des multinationales.
Mm-hmm.
Et tout ceci dit, à la fin, moi, je me suis dit, bon, à un certain moment, après 12 ans, je me suis dit, bon, ben Bertrand, il faut que tu crées une entreprise. Et je me suis lancé dans la formation en créant un cabinet de formation.
Qui forme à quel métier ?
De formation d'abord en anglais, de langue, un cabinet de langue, mais ensuite en marketing et en management. Surtout, voilà, puisque c'est durant ces 12 ans, j'ai été vraiment plongé dans le marketing et de surcroît dans le management. Mais l'anglais était toujours là comme langue.
Vous avez fini par vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Merci, merci Bertrand pour ce témoignage, Didier Akouété.
Et en fait, il y a une première partie de l'expérience de Sébastien qui est extrêmement intéressante parce que vous voyez, il prend un job, il retourne à l'école, il reprend un job, il continue et en réalité, l'avenir de la formation va être des formations courtes, spécialisées. Parce que les compétences vont énormément évoluer. Et donc, ce que j'appelle le millefeuille, une fois que vous avez la base, donc la pâte, le socle commun de compétences, après, vous allez faire des formations selon l'évolution des métiers, des secteurs. Et donc, c'est ce que Bertrand a fait. Et on va étudier tout le long de la vie, et pas seulement à l'école, puisqu'aujourd'hui, on va faire du distanciel, du présentiel. Donc, ça va révolutionner complètement la vie des cadres demain, parce que ça va être ça, la réalité. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il comprend qu'il y a un marché, il saute dessus et c'est un succès parce qu'il arrive à s'adapter, à comprendre son environnement. Et donc, on va avoir de plus en plus de création d'entreprises. C'est vrai que jusque-là, c'est beaucoup par défaut parce qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Donc, les jeunes créent. Sauf que bien souvent, ils ont mal appréhendé la réalité du marché.
Là, c'est très réfléchi, en fait, comme démarche.
Exactement. Et donc, le fait de comprendre son environnement, de répondre à un vrai besoin, nous allons avoir de plus en plus, effectivement, des vraies entreprises qui vont survivre. Parce que le problème, c'est que le taux de survie est très faible. Or, quand on connaît bien l'environnement, comme Bertrand, eh ben, on va avoir de plus en plus de success stories africaines, avec des Africains qui créent, qui comprennent leur marché et leur réalité. Ça, c'est vraiment l'Afrique que Malik explique justement dans le magazine.
Alors justement, on a une voisine là qui veut entreprendre, qui est au standard, Madeline à Kinshasa. Bonjour Madeline.
Bonjour.
On vous écoute Madeline.
Alors moi... Au départ, j'ai commencé une formation en médecine. Excusez-moi, je m'écoutais bien ?
Oui, oui, on vous entend. Allez-y.
D'accord, merci. Alors, comme je disais, il y a 8 ans, j'ai commencé une formation en médecine. Et il y a 2 ans, un ami d'enfance m'a contacté. Il savait que j'avais une passion pour l'art décoration. Il a créé une société dans l'événementiel et dans le multiservice. Et il m'a contacté pour diriger son secteur art déco. Et pendant ces 2 années, j'ai développé une autre passion dehors de la médecine pour l'art décoration, en fait. J'aimais beaucoup ça et je vous dis la vérité, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais le problème, c'est lequel ? C'est que quand j'ai voulu me lancer moi-même dans ma boîte avec 2 de mes soeurs et une amie, ça a été un petit peu difficile. Il a essayé de me parrainer et puis de me présenter, de me pistonner, comme on dit, avec certaines personnes qui pourraient m'aider à avancer, mais... J'ai été bloquée à un certain niveau. Les gens ne comprennent pas facilement en fait, qu'une personne qui a suivi une formation en médecine pendant 8 ans puisse se lancer dans l'événementiel alors qu'elle n'a aucune formation. En fait. On me dit, mais madame, vous êtes une médecin, pour qu'est-ce que vous venez faire dans l'événementiel ? Contentez-vous de faire ce que vous faites et puis laissez les gens qui ont suivi une formation en art décoration le faire. Mais moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai développé une deuxième passion qui est l'art déco. Et j'aime aussi la médecine. Et je me dis que c'est possible de combiner en même temps la médecine et l'art décoration et me lancer aussi dans ma propre boîte, en fait.
Donc dans une boîte qui serait dans l'art décoration ?
Pas nécessairement dans l'art décoration, parce que mes sœurs sont dans d'autres domaines et elles voudraient aussi qu'on combine, en fait, on voulait proposer un multiservice, de plusieurs services à des personnes. L'art décoration... il y avait aussi le management que ma sœur voulait proposer et puis aussi le service traiteur qu'une amie est en train de gérer déjà et elle voudrait s'inclure avec,
En tout cas, vous avez plein d'idées et notamment ce projet hein, d'entreprendre. Merci Madeleine pour ce témoignage. Nous sommes en ligne avec Kuntel Khan, née en France, qui est allée s'installer au Mali, dont elle est originaire, pour trouver du travail. Bonjour Kuntel Khan.
Bonjour Charlie.
Alors vous êtes donc à Bamako depuis 2014. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et pourquoi vous êtes venue vous installer à Bamako ?
Alors, je suis venue m'installer à Bamako en 2014 parce que je trouvais difficilement du travail en France. J'ai étudié la sociologie et puis j'avais peu d'expérience professionnelle ou sinon de l'expérience d'un domaine qui ne m'intéressait pas forcément avec peu de perspectives d'évolution. Alors, sur un coup de tête et un nouvel échec, je me suis dit que j'allais tenter l'aventure au Mali. En plus, je bénéficie de la double nationalité. Donc c'était l'occasion d'en profiter. Je suis venue en prospection pour 3 mois et je suis toujours là.
Et vous travaillez dans quel domaine ?
Je travaille dans une fondation politique allemande. On intervient dans le champ de la démocratie.
Et tout à l'heure, vous avez dit au Standard, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais en France.
Non, c'est sûr, parce que déjà, je suis rentrée dans cette boîte en tant qu'assistante de programme. Au bout de 6 mois, j'ai été chargée de programme. Je fais des choses qui m'intéressent. J'ai pu parcourir divers pays africains que je n'aurais pas eu l'occasion, dans lesquels je n'aurais pas pu aller parce que ça coûte cher déjà de voyager en Afrique. Et puis, je fais aussi d'autres choses, des activités connexes qui me permettent de m'épanouir davantage.
Merci beaucoup Kuntel Khan pour ce témoignage, cette participation à notre émission. Malick Diawara, on voit hein, que le continent africain devient aussi un Eldorado.
Oui, non, c'est vrai. Mais je pense qu'il est important que les gens intègrent bien dans leur démarche et dans leur esprit qu'il faut, une fois qu'on a fini ses études, on doit apprendre un métier. Un métier. Par exemple, la personne qui vient de parler, qui a une formation en sociologie, elle est aujourd'hui certainement grâce au fait qu'elle est partie au Mali, etc. Ça lui permet d'intégrer une fondation et de s'occuper de sciences politiques, etc. Mais c'est pas quelque chose de vague. La science politique et le droit, et tous les autres domaines, c'est des domaines qui sont extrêmement précis.
Ça veut dire qu'il faut aussi apprendre sur le tas.
On peut apprendre sur le tas, c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il y a une exigence qu'il faut avoir, parce qu'avec tout ce que Didier nous a expliqué et tout ce qu'on voit sur le terrain, il y a une exigence à avoir au niveau des compétences, au niveau du savoir, pour ne pas être, en deuxième division, si j'ose dire, en termes de capacité.
Alors Didier a coûté en 2050, le continent africain comptera 2,5 milliards d'habitants, la moitié aura moins de 25 ans. Comment faire pour que l'Afrique devienne un réel Eldorado de l'emploi ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Alors, déjà, il faut changer la structure des économies. On doit, et Malick le rappelait, on doit passer d'une économie de rente à des économies de production, de création de valeur, parce que c'est ça qui crée des emplois. Et puis surtout qu'on arrive à créer un environnement propice à la création d'entreprises, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Aujourd'hui, vous savez qu'à peine 20% des PME financent leurs activités par le secteur bancaire. Donc on ne sait pas où ils trouvent l'argent. Enfin, on sait, mais pas par le circuit financier habituel. Donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas réussi à créer l'écosystème qui favorise le développement des entreprises locales, notamment des PME, qui constituent 90% du secteur privé en Afrique, eh ben, ça ne sera pas l'Eldorado. Donc, structure économique à revoir, environnement des affaires, soutien aux PME et politique de formation pratique opérationnelle pour permettre à ces centaines de milliers de jeunes, parce que c'est des centaines de milliers de jeunes, effectivement, qui seront sur le marché. Et il faut que l'Afrique soit cet Eldorado dont tout le monde rêve, dont tout le monde parle. Il faut qu'il devienne réalité.
Très bien, merci à vous Didier Akouété, Malick Diawara d'avoir répondu aux questions de nos voisins, d'avoir partagé aussi cette vision d'une embellie économique sur le continent. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Pauline Leduc à la réalisation, Cécile Lavolo en coulisses, Sigrid Azeroual pour vous répondre les voisins. Merci aussi à Vincent Pora, merci aux jeunes des apprentis d'Auteuil qui sont venus nous soutenir dans le studio et merci à vous bien sûr les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, sujet éducation comme chaque vendredi. Demain nous donnerons la parole à des professeurs et des instituteurs passionnés. Quelles qualités font un bon enseignant ? Faut-il nécessairement avoir la vocation ? Quels conseils pour celles et ceux qui aimeraient suivre cette voie ? On en parle demain. À demain les voisins.
Sept milliards de voisins, c'est fini.